VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Au Mali, un casque bleu a été blessé aujourd'hui par des tirs d'obus sur un camp de la mission de l'ONU à Ménaka, dans le nord du pays. Cette nouvelle attaque survient alors que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, réélu le 20 août, doit être investi ce mardi à Bamako. Il aura en priorité la tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg. Sa mise en œuvre accumule des contretemps et n'a pas empêché les violences de se propager du nord vers le centre du pays et vers le Burkina Faso et le Niger voisin. Un des candidats à la primaire de l'opposition au Nigeria, Atiku Abubakar, a déclaré avoir des craintes pour les prochaines élections générales prévues en février 2019. Désormais, nous avons affaire à un ancien général intransigeant et ivre de pouvoir, a ajouté le candidat de 71 ans qui a construit une immense fortune, notamment dans les transports d'import-export, a confié l'ancien vice-président à une poignée de journalistes internationaux tard dans la soirée lundi. En République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Pierre Bemba a été définitivement écarté de la course à la présidentielle du 23 décembre prochain. Les juges de la Cour constitutionnelle ont validé la décision de la Commission électorale nationale indépendante qui avait rejeté sa candidature suite à sa condamnation à la Cour pénale internationale pour subornation de témoins, tout comme celle de Jean-Pierre Bemba. La candidature de l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito a également été invalidée. Les détails avec Thierry Kamoudi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Recalée par la CENI le mois dernier, la candidature de Jean-Pierre Bemba n'a pas pu être repêchée par la Cour constitutionnelle, instance habilitée à gérer les contentieux électoraux. La Cour a, comme la Commission électorale nationale indépendante, estimé que la subornation des témoins pour laquelle l'ancien vice-président de la RDC a été condamné par la Cour pénale internationale est une forme de corruption. Sa requête a donc été jugée recevable mais non fondée. Définitivement écarté de la course à la magistrature suprême également, l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito, suite à un conflit avec le parti Lumumbiste unifié dont il était encore député national selon la Cour au moment du dépôt de sa candidature. Par contre, Sami Badibanga et Madame Marie-Josée Ifoku, recalée par la Commission électorale nationale indépendante pour détention des nationalités étrangères, ont été réhabilitées par la Cour constitutionnelle et seront bien candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, a promis hier 60 milliards de dollars au continent. Le président Xi Jinping vantant une aide sans condition face aux critiques de l'Occident. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rejeté l'étiquette de néocolonialisme à propos de cette aide. Et plusieurs pays et organisations internationales ont promis 2,17 milliards d'euros d'aide au développement des pays du bassin du lac Tchad. C'était hier à Berlin, en Allemagne, lors de la deuxième conférence des donateurs pour cette région où s'est vu le groupe djihadiste Boko Haram. Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, organisateur de la conférence, les fonds seront mis à la disposition des pays concernés au cours des prochaines années. En plus des 2,17 milliards de dollars, plusieurs banques d'aide au développement ont promis de débloquer 460 millions de dollars de prêts à taux bonifié. Septième forum à Pékin sur la coopération France-Afrique, Chine-Afrique. Le président Xi Jinping donc a promis 60 milliards. Mais nous partons pour autre chose et c'est la mort de plusieurs Africains dans la Méditerranée. Une spécialiste de du HCR nous parle maintenant du drame méditerranéen.
1600 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe en mer Méditerranée et notamment en mer Méditerranée centrale. C'est les données que nous avons, mais il pourrait y avoir d'autres personnes mortes qui n'auraient pas été rapportées.
On voit aussi en ce rapport que les routes ont changé. Est-ce que le fait que les routes ont changé, cela signifie qu'elles sont peut-être plus dangereuses au vu de ce chiffre qui augmente ?
Il y a une augmentation du nombre de personnes qui sont arrivées, notamment en Espagne, mais également en Grèce. Les nationalités qui arrivent par ces différentes routes ne sont pas les mêmes. On ne peut pas, pour l'instant, faire un lien entre la baisse des arrivées en Méditerranée centrale, donc vers l'Italie, avec l'augmentation des arrivées en Espagne. Certaines nationalités sont les mêmes, mais elles l'étaient déjà l'année dernière. Donc, on n'a pas d'éléments pour l'instant pour dire qu'il y a un lien entre l'augmentation de la route en Espagne et la diminution d'une autre route.
Ce rapport est intitulé « Voyage désespéré ». Pourquoi ce choix de titre ?
Parce que les personnes qui entament ce voyage n'ont pas d'autre choix. Fuient la persécution, fuient la guerre, parfois la pauvreté. C'est un voyage désespéré parce qu'ils savent aussi que la route est meurtrière. Elle l'est maintenant plus que jamais. Et donc cela appelle à d'autres solutions et nous voulons attirer l'attention justement sur cette situation dramatique pour également appeler les États européens à proposer davantage de voies légales comme des visas humanitaires ou des bourses d'études aussi pour des personnes en besoin de protection. Le nombre de places qui ont été offertes cette année par les États européens est de 13 000, mais les besoins sont bien plus importants, à la fois de réfugiés qui se trouvent dans des pays qui mènent à la Libye, donc qui sont sur la route de la Méditerranée centrale, mais aussi pour les réfugiés que nous évacuons de Libye, puisque depuis la fin de l'année dernière, nous avons un programme d'évacuation humanitaire de réfugiés de Libye vers un centre de transit humanitaire au Niger, afin que les personnes soient ensuite réinstallées vers d'autres pays, dont les pays européens. Et pour que ce programme d'évacuation humanitaire continue, il nous faut plus de place, puisque la seule solution actuellement pour libérer les personnes qui sont en détention en Libye est de les évacuer.
Voilà, vous écoutiez Céline Spiff du Haut Commissariat aux réfugiés. Elle nous parlait donc de la mer Méditerranée qui a été plus mortelle que jamais pour les migrants au cours des premiers mois de 2018. Céline Spiff était interrogée par Ekia Badou.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'ONU lance de nouveau pour parler jeudi à Genève pour mettre fin à la sale guerre du Yémen, un conflit oublié à l'origine de la crise humanitaire du monde, mais dont le règlement semble lointain tant l'animosité entre les belligérants est forte. Aucun face-à-face direct n'est prévu, sauf surprise, lors de ces consultations organisées par le nouveau médiateur de l'ONU. Depuis février, le Britannique Martin Griffith. Les deux parties se réunissent toutefois pour la première fois dans la même ville depuis l'échec en août 2016 d'un processus de paix qui avait duré 108 jours au Koweït. La Syrie, l'armée syrienne s'apprête à régler le problème du terrorisme dans la province d'Idlib, dernier bastion des insurgés en Syrie, a indiqué aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le président américain Donald Trump a averti hier la Syrie, la Russie et l'Iran contre une offensive à Idlib. Idlib est la dernière région syrienne contrôlée par la rébellion, déclarant qu'une telle opération pourrait provoquer une tragédie humaine. Idrissa Seydou Dia.
Le président Trump a mis en garde la Syrie, la Russie et l'Iran contre une attaque contre la province d'Idlib, tenue par les rebelles, en disant dans un tweet hier qu'il commettrait, je cite, « une grave erreur humanitaire en prenant part à cette potentielle tragédie humaine. Des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées. Ne laissons pas cela se produire », a encore dit M. Trump. Plus tôt dans la journée, l'Iran avait exprimé son soutien à une imminente offensive syrienne pour reprendre le dernier grand bastion de la rébellion en Syrie, disant, je cite, que la région devrait être débarrassée des terroristes. Le chef de la diplomatie iranienne, Jawad Zarif, a rencontré hier à Damas son homologue syrien, ainsi que le président Bachar al-Assad.
Merci Idrissa. C'est aujourd'hui que commence au Sénat américain, ici à Washington, les audiences de confirmation de la nomination du juge Brett Kavanaugh par le président Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis. On s'attend à des questions pointues sur ses positions concernant une série de sujets tels que l'avortement, les droits des homosexuels et les pouvoirs du président. Monsieur Trump est optimiste, mais la minorité démocrate entend s'attaquer à cette sélection du juge Kavanaugh, craignant qu'elle n'assure pendant au moins une génération le contrôle de la Cour suprême par les conservateurs. Et puis un très puissant typhon, considéré comme le plus violent, qui a frappé directement le Japon depuis 25 ans, a accosté aujourd'hui à la mi-journée, perturbant largement les transports et l'activité des entreprises. Le cyclone Jebi, le 21e de la saison en Asie, est accompagné de vents très violents, pouvant atteindre en rafale près de 220 km/h par endroit dans un large périmètre. Jean-Roger Billon à ce micro, prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie d'Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.